I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On s'est quitté en 2019 dans un contexte de crise politique et écologique majeure. Et on se retrouve en 2020 et tout va beaucoup, beaucoup mieux, non ? Non, en vrai, je déconne. C'est encore la merde. Hein. Précédemment, dans Pas le chip, on fait un petit récap vite fait. La terre brûle toujours. Des employés du slip français font une soirée blackface. Lizzo quitte Twitter. Un employé noir de la mairie de Paris est pris en photo lors de sa pause et licencié. La blanchité est grande favorite aux Oscars. Des podcasts qu'on aime s'arrêtent. Miroir, Miroir et The Nod, on pense à vous. Les Grammy Awards font n'importe quoi. Booba se fait bannir d'Instagram.
Scandaleux.
Megan Thee Stallion fricote avec un rappeur blanc sur Instagram. Durant Black History Month. Ah, tout part à la volo. Hein. Mais détendez-vous, vous écoutez le chip et tout va bien. Comme d'habitude, je suis entourée de mes amis. Kevin Donna, j'ai presque oublié ton nom déjà.
Oh, tu peux m'appeler Igor.
Igor. Et François Oulac.
J'en ai marre de toi et de ton obsession de Tyler the Creator, Kevin.
Parce que
et...
bien sûr, tu n'as pas d'obsession, François. Comme
non,
tout le monde
pas
le sait.
Du tout. Je ne vois pas de quoi tu parles.
Alors, je vous propose qu'on fasse un petit catch-up. Pourquoi on n'est pas revenu plus vite? Où était le chip et qu'est-ce qu'on a fait entre-temps? Comment vous allez, quoi?
Moi, ça va super. Les températures remontent, donc les visites, c'est cool. Et j'ai été à Disneyland. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. J'ai fait la tour de la terreur, justement, ouais. De Twilight Zone.
T'as les fesses qui décollent, là.
Ouais, j'ai fait une tête tellement bizarre que j'ai acheté la photo qui te vend à 16€ à la fin. Et là, c'est assez iconique.
Nice.
Et
toi, François?
Moi, ça va. Je travaille toujours, je respire toujours, je dors, je mange. Donc, a priori, ça va.
Ouais. Donc, on a été un peu absent pendant plus longtemps que d'habitude. Mais on était là, on était sur on faisait de la veille sur les réseaux. On bosse beaucoup aussi. Donc, ceci explique cela. Mais on est de retour. Alors, au sommaire de cette semaine, Kevin va nous parler de Watchmen, la série de l'année 2009.
Je
2019.
Suis d'accord. Oh, oui. Oui. Je suis chaud.
Ouais, c'est ça. Hein. Donc, source, toi et moi, on dit que c'est la série de 2019.
On a dû se battre pour imposer ce sujet, mais on en parlera en détail tout à l'heure.
Et plus spécifiquement, de comment le trauma se transmet entre les générations et comment la série aborde ce point.
Ouais, c'est exactement.
Ça, hein. Ok. Et puis du coup, pour la suite, moi, je vais partager avec vous les fruits de ma réflexion autour de la lecture d'un ouvrage qui est assez spécial, qui s'appelle Jambalaya, écrit par Louisa Teich, qui parle de spiritualité noire et plus spécifiquement afro-américaine. Mais avant tout ça, bien sûr, notre rubrique préférée, le trash ou iconique.
Alors, le trash ou iconique des réseaux est de retour et j'ai envie de vous parler de Super Bowl. Moi, le Super Bowl, pour moi, c'est trois anecdotes. La première, c'est Beyoncé, Jay-Z et Blue Ivy qui ne se sont pas levés pendant l'hymne. Colin Kaepernick qui réalise sur les réseaux en mode c'est comment ? Il y a Shakira qui a regardé la caméra, qui a fait avec sa langue comme ça. J'ai googlé, apparemment, elle fait référence à un festival colombien qui s'appelle Son de Negro. J'ai googlé Son de Negro et j'ai vu que c'était les blancs en blackface. J'ai arrêté, je suis pas allé chercher plus loin. Et la troisième anecdote, c'est un drama hors terrain, hors stade de foot, et c'est PETA, donc l'association.
Peter.
On pourrait dire que c'est une sorte d'équivalent de la SPA, c'est une association en
Il y a des gens qui nous ont dit que c'est pas la même idéologie, mais
je suis totalement d'accord. C'est juste pour faire un rapprochement. En gros, c'est une association qui défend tout simplement les droits des animaux, pour faire simple. Et donc ils ont sorti un spot qui devait soi-disant, parce que c'est l'association qui l'affirme, mais on ne sait pas ce qu'il en est vraiment, être diffusé pendant le Super Bowl et qui aurait été rejeté par la NFL en mode censure, pensée unique, tout ce que vous savez. Je vais vous décrire un peu le spot. Faut imaginer une forêt et puis faut vous mettre l'hymne américain qu'on entend pendant le spot. Donc vous avez une hymne comme ça, vous avez une forêt et puis vous voyez les animaux qui s'agenouillent en fait,
qui taquenient
pendant le
qui pose le genou.
Voilà, comme Colin Kaepernick. Donc là il y a les oiseaux qui s'agenouillent, les poissons qui s'agenouillent aussi.
C'est important.
Un ours qui s'agenouille également. des abeilles qui s'agenouillent, et puis à la fin l'aigle patriotique, symbole de notre belle nation américaine, qui s'agenouille, et à la fin il y a un gros slogan: respecter les droits de toutes les formes de vie, hashtag pet lives matter, la vie des animaux compte. On vous a demandé ce que vous en pensiez sur Twitter. J'ai pas les résultats à jour parce que vous avez continué à voter. Mélanie, est-ce que tu aurais l'obligeance de montrer les résultats, s'il te plaît?
J'ai pas.
Tu les as pas sur toi?
Non, j'ai pas. Non, bon. Mais sinon donne les résultats.
Je vous les donne. Ouais, ils sont pas exactement à jour, mais il y a eu.
C'est comme pour l'Iowa. C'est les résultats.
C'est les partiels.
C'est ça.
C'est une appli à calculer.
Bon, en gros, il y avait plus de 385 votes. Vous avez été à l'heure où j'ai pris les résultats. 5% à voter iconique. L'image est forte. Cette politique, c'est iconique.
Qui a voté iconique?
Je ne sais pas.
Dénoncez-vous.
80% à dire trash OMG. OMG, c'est gênant. Et 15% à vous interroger sur l'incongruité d'une telle image, un poisson à genoux. Sachez que personnellement, j'ai voté pour ces 15%. On a At Woolo, qui est un très bon média caribéen que je vous recommande d'ailleurs, qui a commenté Chip plus Soupir. On a également Ketera Moda qui nous dit: la PETA à chaque fois ils mettent dans l'embarras les noirs antispécistes, wesh. Jamais ils n'utilisent d'autres symboles de racisme, et toujours nous avec leur campagne qui renvoie à l'esclavage, là. Ils saoulent de fou. Voilà, donc en gros, il y a eu évidemment une grosse majorité de gens qui désapprouvaient totalement l'image du spot. Vous avez voté quoi, vous?
Moi j'ai voté, j'ai pas été original, j'ai voté trash.
D'accord, et toi Mélanie?
Ah, iconique. Non. Mais moi, d'accord, quand j'ai vu la pub, que tu m'as envoyé la pub, j'ai eu un fou rire en fait. Je me suis dit, au début, je croyais que c'était une parodie, quoi.
Et en fait, tu sous-estimais nos amis américains.
Les Afro-Américains sont aussi en voie d'extinction, donc.
C'est ça, bah, je pense qu'il faut. Il faut défendre. Tous les animaux de la nature ont besoin d'air pur, et quelle que soit la couleur de leur peau. Pour citer une
Merci,
grande philosophe.
Faut qu'on passe.
Non, évidemment, moi ça m'a rappelé, moi j'ai, comme je vous dis, j'ai voté 15% parce que bon voilà, je trouvais ça plus fun de s'arrêter sur juste le poisson qui se foutait à genoux. Moi ça m'a rappelé évidemment les actions d'antispécistes qu'on peut trouver. Pour rappel, bon, l'antispécisme c'est le fait de considérer
que
les...
C'est comme l'antiracisme, mais pour les animaux.
C'est un peu ça, c'est le fait de considérer que les animaux sont les égaux des humains, tout simplement. Et donc il y a pas mal d'actions d'antispécistes en France ces dernières années qui ont eu recours, on va dire, à la même dialectique. À la Place de la République, l'an dernier, si je me souviens bien, il y avait une association qui avait fait un happening, vous savez, avec des militants qui étaient couverts de sang, de faux sang évidemment, qui avaient balancé du sang également sur la statue de la République, et qui s'étaient enchaînés et marqués au fer rouge. Pour montrer que voilà, finalement, ils se mettaient à la place des animaux qui étaient victimes de l'exploitation humaine, et que finalement, ben voilà, est-ce que finalement, ce serait pas comme si on faisait ça à des humains, ce qui est horrible, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. Enfin, je vois pas de quoi on parle. Il y avait également une association qui s'appelle 269 Life Libération Animale, qui, en 2017, avait profité d'une date très symbolique.
Le 10 mai.
Qui avait profité du 10 mai, donc jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage en France, pour réclamer un nouveau statut juridique en France pour les animaux.
En parlant d'injustice, j'ai un truc à dire. Oui, non, mais oui, c'est ça, c'est exactement ce que.
En parlant d'esclavage. Donc voilà, je veux bien considérer les animaux comme les égaux des humains, mais ça me gêne un peu de considérer les humains comme les égaux des animaux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc évidemment, il y a un rapprochement entre la cause noire et une cause vraiment humaine, et entre celle des animaux qui est un peu déplacée. Faire la comparaison noir-animaux, c'est un peu chaud. Et puis évidemment, il y a aussi une analogie qui pour moi est un peu trop proche de la réalité, quoi. Je pense que en fait, c'est quand même, on joue quand même avec un truc très réel et très récent, quoi.
C'est réel pour toi, pas pour tout le monde.
C'est bien le problème, c'est bien l'angle mort, je pense, qui joue là, tu vois. C'est que pour eux c'est une sorte d'analogie, de rapprochement symbolique qui, d'un point de vue purement théorique et intellectuel, voilà, se tient. Mais ils oublient qu'ils jouent avec une réalité où il y a pas si longtemps que ça, les personnes noires mises en esclavage étaient des propriétés, des objets meubles. Il est marqué au fer rouge exactement comme les happenings des écologistes. Donc,
trash.
Je dirais trash, et je dirais que Kevin a quelque chose à dire.
Ouais, j'ai deux trucs à dire. Le premier, c'est sur la question de l'antispécisme, de la défense des animaux, etc. Il y a un film que j'ai trouvé très, très bien, qui est sur Netflix, qui s'appelle Okja.
Ah, je l'ai mis dans ma liste.
Et justement, il y a cette question-là, et on peut parler des souffrances animales et des crimes commis contre des personnes humaines sans avoir nécessairement à prendre l'esclavage et les violences policières et Black Lives Matter. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, quand vous parliez de est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel, pourquoi ça nous met mal à l'aise, c'est aussi que au 19e siècle, à l'époque du racialisme, etc., lorsque les blancs commencent à se pencher sur est-ce que les noirs sont des égaux, etc., c'est souvent des experts en zoologie, des paléontologues qui se posent sur ces trucs-là. Donc il y a quelque chose d'assez moyen, et puis surtout cette histoire-là est méga évacuée. Ouais. De façon générale, les cuviers, les trucs comme ça, on en discutait en antenne. Ouais. On oublie complètement cette espèce de truc de chez nous manquant.
Alors que l'animalisation des personnes afrodescendantes est encore une réalité aujourd'hui.
Donc non à la PETA.
Non à la PETA, ou du moins à ce spot de la PETA. Et puis non également au fait de jouer avec un héritage qui ne leur appartient pas et qui est encore lourd à porter.
Alors Mélanie et moi, comme je disais tout à l'heure, on a un peu insisté pour ce sujet-là. Watchmen, donc c'est une série HBO de 2019 diffusée en France sur OCS. Et j'étais pas méga hypé par la série, j'étais pas impatient.
Moi, j'avais détesté le film d'il y a 10 ans.
Ouais, on peut l'évoquer un peu plus tard. Ouais. Le film film bon m'avait pas plus marqué que ça. C'était pas nul, mais j'étais pas surexcité à l'idée du film. Et puis surtout, il y a un petit peu de super-héros fatigue pour tout le monde. Ouais. Et en vrai, Watchmen, c'est un peu plus que ça. C'est violent, c'est complexe, c'est téméraire dans le choix des sujets traités. On y parle d'injustice historique, de sexualité, de trauma, de filiation. Moi, je suis enthousiaste. François, pour toi, ça a été un peu plus laborieux. Est-ce que déjà tu peux...
Vous direz que je rentre dans le...
Ouais, juste en deux mots.
François,
ouais.
Tu préfères You, toi, non ? Sur Netflix.
j'ai regardé quelques extraits et j'ai pas du tout aimé.
T'as eu du mal à rentrer dedans.
Voilà, ouais. pour faire simple, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans la série, mais plus pour des raisons de rythme, des raisons de narration, plus que pour des raisons de fond, quoi. Moi, cette série, elle m'a un peu fait l'effet du film High Flying Bird, tu te rappelles, Kevin, dont on avait parlé, sur le basketball, qui est un film qui est plutôt chiant à regarder, mais que quand tu commences à explorer les thèmes et ce qu'il y a derrière, ça devient passionnant, quoi. Voilà.
Ok, voilà. Je sais pas. J'ai précisé que ça parlait de race et que pour moi, sur la question de la race, c'est ce que j'ai vu de mieux à la télévision depuis Banlieusard de Kerry James. Non, je déconne. Depuis la saison 1 d'Atlanta de Donald Glover, bien évidemment, et ça veut dire ce que ça veut dire. Donc on va un peu spoiler la série, mais c'est pas grave. There are people who believe that this world is fair and good. It's all lollipops and rainbows. We don't do lollipops and rainbows. We know those are pretty colors that just hide what the world really is. Black and white. Black and white.
Ouais, puis les spoilers, deux mois après que la série soit finie.
Ah ben oui, les gens.
À vos risques et périls.
Donc on dévoile une petite partie de l'histoire, mais on va pas parler d'Ozymandias, de Lady Trieu, de Dr Manhattan, tout ça. Watchmen à la base c'est une bande dessinée, un graphic novel culte d'Alan Moore, un auteur britannique difficile à cerner. Le mec c'est un quasi gourou, il a prédit la fin du monde, etc., etc. Et ce
années 80.
C'est le milieu des années 80. Ça va avoir un énorme impact sur justement sur l'avenir des super-héros. Aujourd'hui, on dit The Boys, le Joker, etc. Ça n'aurait pas été là s'il n'y avait pas eu du Alan Moore. L'univers, juste pour vous résumer en deux mots, ce que vous avez besoin de savoir, c'est que ça commence dans les années 40 avec un groupe de vigilantes, de justiciers masqués qui sont dysfonctionnels et moralement ambigus. Et d'ailleurs, les personnages du roman originel, de la bande dessinée originelle, ne sont quasiment pas dans la série. Donc ça permet aussi à ceux qui connaissent pas de... C'est une réinvention, et puis ça permet aussi à ceux qui connaissent pas de rentrer avec un peu moins de mal. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est que l'action se situe en 2019, une trentaine d'années après que une sorte de calamar de c'est quoi, c'est un poulpe ?
Ouais, c'est un poulpe géant qui s'effondre sur Manhattan.
Voilà, donc il y a un poulpe qui s'effondre sur Manhattan et ça fait des millions de morts. Et donc du coup, grâce à ça, on évite un holocauste nucléaire entre les États-Unis et l'URSS. Et donc nous, l'action se passe une trentaine d'années plus tard.
Actuellement, 2019, mais
voilà, c'est ça.
Parallèle à notre 2019 à nous, quoi.
À notre époque, c'est justement une uchronie. C'est la réécriture de l'histoire avec justement des éléments qui ont changé dans le passé. Aux manettes de la série, on a Damon Lindelof, le créateur de Lost
et de
The Leftovers, que je suis en train de terminer, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un vrai fanatique du livre original. Quand il parle du comic book, il parle de l'Ancien Testament, pour dire à quel point c'est important pour lui. Donc il a une lourde responsabilité. Il avait déjà refusé une première fois de faire une adaptation de Watchmen, et puis là, il s'est lancé. Et justement, c'est à la fois une lourde responsabilité, mais Watchmen, même si c'est très populaire, c'est pas aussi intouchable que Spider-Man ou Superman, donc tu peux te permettre aussi de l'irrévérence. Et moi, ce que j'ai trouvé comme premier parti pris courageux, c'est justement de le mettre dans cet univers où on sort de la guerre froide, qui est comme obsession du livre à la base des années 80, la peur de la menace soviétique, et d'arriver en 2019 avec justement ce qu'on appelle, ce que dont Lindelof parle, c'est pas lui qui a inventé le concept, d'anxiété culturelle. C'est les blancs qui ont peur en gros de perdre leur pays, de se faire remplacer, etc. Et donc on parle d'une obsession américaine, la race, et donc changement de décor, on n'est plus à New York, on a tout ça. François ?
Ouais, tu rentres déjà dans les concepts, mais c'est quoi l'histoire, quoi ?
Mais l'histoire de là où on est,
de la série.
Ouais, ça parle de quoi, quoi ?
Alors, ça parle de quoi ? Déjà, avant de dire de quoi ça parle, c'est le principal changement qu'on voit et qui, à mon avis, justifie la création de la série, etc. C'est le changement de point de vue, où d'habitude, c'était centré sur des héros hommes blancs.
Buriné par la guerre.
Exactement, le comédien, etc. Là, le héros, puis c'est plutôt une héroïne, c'est Angela Abar, Sister Knight, qui est une femme noire hyper badass. Et juste ça, ce changement d'angle, ça a provoqué une réception assez mitigée. La réaction de la fandom blanche.
Les mecs qui aiment les super-héros ont fait un peu la gueule, quoi, quand ils ont vu que la nouvelle héroïne de Watchmen, c'était une femme noire.
Interprétée par Regina King, c'est parfaite. Et en fait, les méchants dans ce nouveau monde de Watchmen, ce sont des rednecks racistes, la 7e cavalerie, une sorte de descendant du Ku Klux Klan qui trempe dans de grosses conspirations. Carcass on the highway last night. Soon the accumulated black filth will be hosed away, and the streets of Tulsa will turn into extended gutters, overflowing with liberal tears. Soon all the whores and race traitors will shout, "Save us," and we will whisper,
"No."
Voilà. Un des principaux points de tension dans la série, c'est l'identité de ces super-héros sous le masque. Dans le monde de Watchmen, les policiers eux-mêmes cachent leur identité, portent des masques pour éviter le danger. Et donc, l'enjeu, c'est qui incarne l'âme américaine du vrai héros, patriote, etc. Spoiler, selon Watchmen, c'est les Black People.
Ouais, parce que ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une uchronie politique, un peu comme tu disais au début, c'est que dans Watchmen, les États-Unis ont gagné la guerre du Vietnam grâce à un super-héros omnipotent, Dr. Manhattan. Et du coup, c'est Nixon qui est resté président.
Qui est resté président pendant plusieurs,
trois mandats,
et voilà. Après c'est Redford.
Et après c'est Robert Redford qui est devenu président et qui l'est encore actuellement. Et donc c'était un président démocrate qui a reconnu en fait les souffrances, en tout cas ça c'est dans la série, qui a reconnu les souffrances infligées au peuple noir. Quoi.
Exactement. L'idée dans le nouvel univers, c'est que c'est presque une utopie de gauche qui tourne mal, puisque le président dans la série, c'est donc Robert Redford, écolo, proche des minorités, droits des femmes, etc. Et pourtant, il y a encore des trucs sombres qui se passent. Donc, moi, ce que j'ai envie d'aborder pour l'instant, c'est le point de départ de la série. Donc, en 1921, on suit un petit garçon qui s'appelle Will et qui regarde religieusement au cinéma les aventures de Bass Reeves. Bass Reeves, c'est le premier Marshall noir de l'histoire des États-Unis. Et pour lui, ça va devenir une sorte d'exemple de justicier, de personnage moral qui ne veut pas de justice hâtive, etc. Et en fait, ça, cette question de l'identité de Bass Reeves et de sa perception dans l'histoire américaine, c'est une discussion autour d'un personnage de fiction qui s'appelle The Lone Ranger. Et donc, d'un côté, on a les Blancs qui vont dire pas du tout, The Lone Ranger, il est inspiré des aventures de Robin des Bois et de Zorro. Et d'un autre côté, les Afro-Américains disent non, mais c'est évident que c'était les aventures de Bass Reeves qui ont inspiré la création du personnage. Et donc, le petit garçon Will, lui, on va suivre son chemin et il devient un policier. à New York qui veut lutter contre l'injustice, mais qui se heurte à la violence, plutôt au racisme de l'institution, et qui va devoir se masquer pour pouvoir justement devenir le justicier qu'il veut et devenir ainsi Hooded Justice, le premier super-héros. Et pourquoi
Mais ça, c'est complètement, ça dévie complètement de du comics original.
Et c'est ça, en fait, aussi qui va beaucoup choquer. Moi, je voulais parler avec vous justement de l'épisode 6. Mmh. Moi, j'ai pris une énorme claque. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cet épisode où justement on découvre l'identité à travers, avec un procédé de narration assez incroyable.
De Hooded Justice.
Ouais.
Moi, j'ai trouvé ça cool. Disons que le problème, c'est que c'était à la fois l'épisode qui m'a rendu la série un peu plus digérable, parce que je trouve que de l'épisode 1 à l'épisode 6, on est, et c'est le défaut, je trouve, majeur de la série, on est constamment gardé dans l'ombre. On passe son temps à passer d'une timeline à l'autre, parce qu'en fait, il se passe plein de choses différentes, et on connaît pas forcément le lien entre les différentes époques, entre les différents personnages. Je veux pas spoiler, mais voilà, il y a des trucs un peu surréaliste qui se passe avec une... on passe de l'action principale, donc avec Angela Abar, Regina King, qui est policière et qui enquête sur l'espèce de Ku Klux Klan New Age, et sur le meurtre de son chef, du chef de la police. Donc on passe de la timeline de Regina King à celle d'une sorte de savant fou qui crée des espèces de clones et qui les traite avec beaucoup de cruauté, et on sait pas trop où on est ni quand on est, en fait. Et on a aussi des flashbacks du passé de Regina King, du passé du grand-père de Regina King. Donc voilà, ça part un peu comme ça en cacahuètes. Et je trouve que les allers-retours comme ça, un peu incessants entre les différentes timelines, tuent le rythme et empêchent. Et surtout, on n'a jamais la clé du truc, en fait. Donc ça ressemble un peu à Cloud Atlas. Je sais pas si vous l'avez vu, des Sœurs Wachowski. Tu t'es paumé un peu comme ça tout au long.
Okay.
Et c'est l'épisode 6 qui donne un peu plus de sens à tout ça et qui fait que ça devient super intéressant. Parce qu'on a un peu plus de clés.
Je pense que c'est vraiment délibéré, en fait, de la part de Lindelof et ses équipes, parce que l'original, enfin, pour moi, le comics, je trouve, fait un peu la même chose, dans le sens où il y a pareil plusieurs timelines, plusieurs personnages qui se croisent, et à un moment donné, et en fait, c'est tout le concept Watchmen avec l'horloge, et le moment où l'horloge arrivera à minuit, ils vont tous se retrouver, ça va être la guerre, quoi.
Ah ouais.
Et du coup, je pense qu'il a repris cette structure là effectivement. Peut-être que dans une série ça marche un peu moins bien. Moi ce que je peux dire, c'est que cette série, en vrai, quand je regardais les épisodes, je me disais, mais j'aimerais tellement voir ça sur un écran de cinéma, parce que je trouve que les images, notamment la scène du calamar, du poulpe géant qui arrive sur Manhattan et tout, la musique aussi qui est signée de
Trent
Reznor, Nine Inch Nails. En fait, pour moi, il y avait vraiment, à chaque fois que je regardais un épisode, j'étais mais happée, quoi, dans l'ambiance. Même le pilote, en fait, avec Tulsa et les meutes raciales, Black Wall Street et
on
tout.
On va en parler tout à l'heure.
J'étais vraiment mais sur le bout de mon siège, et enfin, j'avais vraiment des émotions hyper fortes. Et au-delà des personnages qui sont intéressants, mais je trouve que c'est vraiment la mise en scène, et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'ambition pour une série qui, pour moi, est largement au-dessus d'un film Marvel en termes juste visuels. Mmh. Tu vois, juste visuels, avec ce qu'ils font avec Black Wall Street dans le premier épisode, le calamar, et même toute la fin de la série, je me dis, mais putain, mais en fait, ça c'est du cinéma. Enfin,
c'est une série d'auteurs, en fait. Ouais. Contrairement aux films Marvel qui sont plus des trucs de
masse. Mais tu vois, on a plein de films de super-héros Marvel, et il n'y en a pas un qui fait ce que Watchmen fait, tu vois.
Tu peux pas,
c'est pas la même...
aller aussi loin dans l'irrévérence avec Spider-Man et dire qu'en fait, Spider-Man, c'était pas ça, mais c'était...
Bon, en fait, il est noir.
Un noir bisexuel qui... Tu vois,
tu peux pas faire ça. Liberté de format ou de narration.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même à signaler, tu vois, que c'est vraiment un accomplissement.
C'est intéressant, le point que tu soulèves, Mel, d'autant plus que donc le créateur de Watchmen, du roman graphique, Alan Moore, et contre toute adaptation de son travail, en particulier à l'écran, que ce soit cinéma ou série.
C'est pour ça que Lindelof, il a hésité pendant super longtemps.
C'est pour ça que Lindelof a hésité pendant super longtemps, parce que lui, justement, il dit, la bande dessinée, c'est justement le média absolu, on peut tout faire, on a une liberté extraordinaire, même dans la temporalité. Bon, ben, le cinéma et la télé à côté, c'est naze, parce qu'il y a tellement d'exigences et de limitations que voilà, on a moins de liberté. Je reviens sur la question du masque et de cette origine un peu cachée des super-héros. La réflexion autour du masque est venue à Lindelof au moment des manifs d'extrême droite à Charlottesville, où justement il y avait donc des hommes blancs d'extrême droite qui défilent en criant des atrocités. Et il s'est fait la réflexion, ils ne portent plus de masque. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire porter le masque? Qu'est-ce que tu caches? Qui a besoin de se cacher, etc. Et puis ensuite, cette envie aussi de raconter un passage méconnu de l'histoire des États-Unis à travers le prisme des super-héros. Mmh. Il dit que comme tout, il se cache pas du tout, il cache pas du tout ses opinions politiques. Il dit qu'il est progressiste, qu'il est urbain, etc. Et que comme tout bon blanc progressiste de sa génération, il a lu Ta-Nehisi Coates. Mmh.
Et c'est là où qu'il a découvert 1921.
Il a découvert Tulsa à travers The Case for Reparations et aussi Une colère noire et un autre livre qui s'appelle Burning, qui n'est pas de Ta-Nehisi Coates, qui parle de tout ça. Donc, il essaie de raconter cette histoire de Tulsa qui s'est passée il y a donc 99 ans, qui est encore une histoire très, très d'actualité, pour plusieurs raisons. Dans le premier épisode série...
Il s'est passé quoi à Tulsa, exactement?
J'y arrive. Dans le premier épisode de la série, il y a deux gamins, des collégiens qui se battent au sujet des Red Foundations. Donc, t'as en gros un blanc qui dit au personnage de Regina King, donc une femme noire, vous avez monté votre business avec l'argent des Red Foundations. Les Red Foundations, c'est des compensations qui ont été données par le gouvernement aux descendants des massacres de Tulsa. Alors, en quoi ça consiste? Pas d'exemption d'impôt pour les gens qui peuvent prouver par leur ADN qu'ils ont un lien avec des victimes de massacres de Tulsa. Qu'est-ce qui se passe? C'est un événement tabou parce que tellement violent qu'il est difficile à raconter et à croire. Ça se passe donc en 21, époque de la ségrégation. Et à Tulsa, donc de cette ville de l'Oklahoma où se passe Watchmen, il y a le développement d'un quartier qui s'appelle Greenwood, qu'on surnomme Black Wall Street. Et c'est un quartier noir, dynamique et prospère pour l'époque.
They called it Black Wall Street.
It was a mecca. It was a huge success.
But Black Wall Street was also an anomaly. It thrived at a time when the KKK was incredibly active in Oklahoma, and the nation had just been through the Red Summer of 1919, when white mobs murdered black people in dozens of incidents across the U.S.
Donc, en fait, je vous résume, il y a une altercation entre une adolescente blanche et un adolescent noir dans un ascenseur du centre-ville de Tulsa. Ça a escaladé, il y a eu des violences, et ensuite une foule de blancs armés et soutenus par la garde nationale, il y aurait eu des bombardements aériens, vont massacrer environ 300 personnes. J'y dis environ parce qu'on n'est pas du tout sûr du nombre total, parce que les corps ont été jetés, enfin, c'est assez gore.
Les enfants, les femmes, tout le monde.
Et les conséquences pour les survivants aussi ont été assez horribles. Donc, il y a eu un effort pour occulter les faits. Par exemple, on a parlé d'émeutes raciales plutôt que de massacre pendant longtemps. On a essayé de cacher les preuves, de laisser les familles se débrouiller. Et c'est seulement en 1997 que la ville de Tulsa a ouvert une commission où ils ont enregistré les témoignages, justement, des derniers témoins. Il reste une personne qui a 105 ans aujourd'hui. Watchmen, c'est pas manichéen, justement, parce que le président est une icône progressiste, Robert Redford, donc dans cet univers-là, mais ça montre que tout n'est pas guéri et que le ressentiment existe encore. Donc Redford a eu beau mettre en place des mesures qui tentent de réparer ça, il y a un groupe de gens qui le refusent, et évidemment, c'est ce qui va emmener à un ensemble de conspirations, de machinations, etc. Les problèmes, en fait, que traverse Angela, c'est aussi les problèmes de Will, parce qu'ils sont liés par la famille, et que les traumatismes que Will a vécu en 1921, il les transmet d'une certaine façon à Angela. François, tu as des choses à nous dire sur ce qu'on appelle le traumatisme intergénérationnel. Je crois que tu t'es tombé sur un livre.
Ouais, en fait, la dernière fois que je suis rentré en Guadeloupe, j'avais repéré ce livre à la FNAC, je l'avais pas acheté à ce moment-là. Et là, en voyant la série, je me suis dit que ça valait le coup d'y retourner. Alors du coup, c'est un livre qui s'appelle... je te dirai, amené Mélanie.
L'esclavage, deux points, quel impact sur la psychologie des populations?
Tout à fait. Comme tu disais, dans Watchmen, on est dans un monde un peu uchronique où il y a eu une attaque à New York qui a tué 2 millions de personnes et qui a laissé des
3 millions,
excusez-moi.
Les geeks, 3 millions.
Parce qu'ils sont totalement morts et c'est pas une série, vous savez. Et ça a laissé surtout des centaines de milliers de personnes traumatisé. Et en fait, il y a une scène qui, moi, m'a marqué, où il y a un des personnages, un des flics, un des partenaires, en fait, de travail de Angela, qui participe à un groupe de parole. Et l'un des participants, donc de ce groupe de parole des personnes traumatisées, dit: alors moi, c'est chelou parce que, en fait, je n'étais pas présent à New York lors de l'attaque parce que je suis trop jeune. Ma mère était présente lors de l'attaque et je suis né bien après. Et pourtant j'ai des angoisses, ouais. j'ai des parano, et j'ai l'impression que nos parents peuvent nous transmettre un peu nos traumatismes. Et ça m'a fait ding 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 dans ma tête. Parce que cette idée que les traumatismes se transmettent de génération en génération, elle est super intéressante. Donc déjà, c'est un truc qui existe dans la pop culture depuis assez longtemps. toute la pierre angulaire des Rougon-Macquart de Zola. Vous savez, c'est l'idée que d'une famille, qu'en gros les ascendants peuvent te passer leur maladie, leurs affects, leurs malédictions,
leur débilité,
exactement, débilité au sens vraiment étymologique du terme. Alors, à toute proportion gardée, le personnage de Carl Jacobs dans Euphoria, il y a cette scène super intéressante. Vous savez, il vit une double vie secrète et son fils,
il couche avec des mineurs
notamment, et son fils, bon, c'est une grosse enflure, hein. Et en gros, à un moment, il a cette scène où il dit j'ai l'impression que mon secret a empoisonné ma famille et ma descendance. Donc bref, voilà, c'est une idée qui est très présente dans la pop culture et qui est validée par la science. Et nous, les Noirs, on est super concernés par cette idée.
Pourquoi?
Je me demande bien pourquoi. Eh ben justement, c'est la réponse, c'est l'une des réponses de ce bouquin qui a été écrit, donc L'esclavage, quel impact sur la psychologie des populations, qui a été écrit par Aimé Charles Nicolas, qui est donc un psychiatre et addictologue martiniquais, et par Benjamin Bowser, qui est un sociologue américain.
J'adore son nom.
Oui, je sais pourquoi tu kiffes. Donc en gros, c'est un ouvrage collectif fait par plusieurs scientifiques de différents domaines de recherche qui s'intéressent à cette question, qui répond à la question assez simple. Puisque la science a prouvé que les événements traumatiques laissaient des traces sur la descendance, par exemple, on sait que les descendants des survivants de l'Holocauste ont des traces, qu'en est-il des Caribéens, qu'en est-il des Brésiliens, qu'en est-il des Afro-descendants qui descendent de 4 siècles de traumas liés à l'esclavage. Donc, déjà, le premier constat que fait Aimé Charles Nicolas, c'est que, évidemment, la colonisation a laissé des traces, des héritages psychologiques. Par exemple, on sait statistiquement, scientifiquement, que les Amérindiens ou les Aborigènes ont des tendances héréditaires, génétiques, à l'alcoolisme et à l'addiction qui sont plus prononcé, excusez-moi.
J'avais toujours entendu dire que c'est des trucs d'enzymes, qu'ils assimilaient pas l'alcool de la même façon, mais c'est... Du coup, c'est des choses qui sont liées à la colonisation, on sait pas.
On le sait. Alors, l'enjeu, justement, c'est de pas se lier à une étude génétique et à croiser, en fait, les facteurs à la fois génétiques, sociaux, économiques, historiques. C'est tout l'intérêt du bouquin, en fait, qui est une sorte de résumé du premier colloque interdisciplinaire qui a été fait sur le sujet. On n'avait jamais... On a déjà étudié les traumas transgénérationnels, on a déjà étudié l'histoire de l'esclavage, mais on n'avait jamais croisé les deux approches, en fait. Donc ça qui est super intéressant dans le bouquin. On sait par exemple que dans les modèles éducatifs également, on a des réminiscences de la société de la plantation. Par exemple, la façon dont certains parents, notamment des parents africains, vont privilégier le comportement de l'enfant et la discipline à l'affection. Donc ce que les Afro-Américains appellent le tough love, vous savez, qui est donc directement aussi hérité d'une certaine société colonialiste. Le fait de reproduire sur l'enfant les violences qu'on peut avoir subies physiquement ou symboliquement. Moi, j'ai tout de suite pensé, lorsque j'ai lu ça, au personnage de Denzel Washington dans Fences.
Bien sûr.
Cette espèce de père brisé par le racisme, qui en gros déverse une forme de toxicité sur toute sa famille et qui empêche l'ascension sociale de son fils. Il y a un truc comme ça, tu vois. Et donc voilà, tout ça pour dire que voilà, Aimé Charles Nicolas, il fait une sorte de recollection comme ça des différents facteurs qu'on peut avoir. Et il y a une contribution qui m'a particulièrement intéressé dans le bouquin, c'est celle de Ariane Jacobino, qui est une généticienne de l'Université de Genève.
Okay.
Et donc en gros, elle fait de l'épigénétique. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'épigénétique ?
Depuis pas longtemps.
D'accord, l'épigénétique, c'est le fait d'étudier les variations environnemental de l'ADN. En fait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on pensait que l'ADN, c'était un code qui bougeait jamais, et qui était fixe, etc., pour toute sa vie. On a découvert qu'en fait, l'ADN peut se modifier au cours de ta vie individuelle pour mieux t'adapter à ton environnement. C'est assez cool, en fait. Par exemple, si tu n'as pas un ADN qui est très bon pour le froid, si tu déménages en Alaska, au bout de 20 ans, tu vas développer une résistance au froid. Donc, c'est très pratique, en fait, l'épigénétique pour ça. Et en fait, le truc, c'est que normalement, quand tu fais un enfant, il y a une sorte de reset, de redémarrage de ton ADN qui est fait, en fait. C'est-à-dire que l'ADN fait en sorte que les variations épigénétiques que tu as eues toi pendant ta vie, elles se retrouvent pas dans le code source, on va dire, de ton enfant. Le problème, c'est que ce processus, il est pas parfait. Et qu'on retrouve quand même des variations de l'ADN de tes parents chez les enfants. Alors c'est un phénomène qu'on connaît pas encore très bien. On sait pas comment ça marche, etc. Mais on sait que ça existe.
D'accord.
Par exemple, on a fait des études sur des souris. On a exposé les souris à des gaz et à des odeurs qui les angoissaient. Et on s'est rendu compte que sur 2 générations, via le sperme du père, le traumatisme se retrouvait. Donc ça veut dire que on peut prouver scientifiquement que ça existe. Par exemple, le poids de naissance des Afro-Américains est inférieur à la moyenne nationale. On a recoupé toutes les infos individuelles, socio-économiques, tout, si vous voulez, tous les pondérables et tous les aléas statistiques qu'on pouvait avoir. Et malgré tout, on a trouvé une différence de 260 grammes qui n'est pas explicable par les statistiques. Pareil chez les Caribéens descendants d'esclaves. Okay. On ne sait pas comment ça marche. Et c'est un truc que j'aime bien, en fait, parce que c'est ce que dit la série, en fait. Dans Watchmen, il y a tout un délire avec les allers-retours entre le passé et le présent, le fait qu'Angela est un peu sur les traces de son grand-père. Il y a un délire scientifique, vous savez, avec les souvenirs artificiels qu'Angela, elle peut consommer dans des pilules. Et puis, tout un délire avec la clinique de la mémoire, là, du docteur Trieux, qui fait que ça donne un peu à la série une crédibilité dans son propos, quoi. On porte en nous le vécu de nos ancêtres, mais genre littéralement. Et donc voilà, juste pour finir, ce que disent les scientifiques dans le bouquin, c'est que c'est pas non plus une fatalité, parce qu'en fait on peut surmonter ce traumatisme, notamment par la psychothérapie, en étudiant évidemment l'épigénétique. Et puis c'est aussi une force de résilience. En fait, ce que dit Aimé Charles-Nicolas, c'est que ça peut aussi expliquer pourquoi on trouve chez les individus et dans certaines parties du peuple noir, une forme de ténacité, une forme de volonté de survie qui est propre à nous. Et ça, c'est cool.
Pour finir, c'est un sujet, je vous disais que c'était un sujet qui était plus d'actualité que jamais. Enfin, Watchmen et tout ce que ça touche, tu parlais de l'épigénétique. La question de la commission à Tulsa qui enquête sur le massacre de 1921, ça a des vraies répercussions dans notre timeline réel à nous, parce qu'il y a deux mois, on a trouvé un charnier. Un énorme charnier à Tulsa, et que les gens de la mairie de Tulsa espèrent avoir des résultats, des confirmations d'ici le printemps. Mais il y a eu beaucoup, en fait, de gêne suite aux discussions autour de Watchmen, parce que cette histoire de Tulsa 1921, il y a un groupe de gens qui en a jamais entendu parler, ou quasiment jamais entendu parler, aux États-Unis. White people. Donc, il y a aussi toute cette question-là qui est vraiment très intéressante, parce que le maire de Tulsa est un blanc qui, lui, au contraire, décide de s'accrocher à cette histoire-là et justement d'aller la confronter les yeux dans les yeux. Allez voir Watchmen. Juste un petit truc pour mes nerds d'histoire, un petit easter egg. Au début, dans le premier épisode, il y a des flyers, des pamphlets de l'armée allemande qui tombent.
On vous traite,
Mal aux États-Unis. Pourquoi vous battez contre les Allemands? Venez à Berlin, venez dans des villes d'Allemagne, il y a des noirs qui ont des positions, etc. Damon Lindelof, le créateur de la série, dit que c'est du mot pour mot, que c'est vrai, verbatim.
Je l'ai lu dans un bouquin,
voilà,
aussi.
Donc voilà, Watchmen, pour moi, gros coup de cœur. Allez voir ça.
Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parle beaucoup des sorcières en ce moment. Il y a un ouvrage du même nom qui cartonne. Il y a même des rayons dédiés dans les librairies. Les sorcières, elles seraient féministes, libres, fortes, pleines de connaissances, etc. etc. Alors, la Wicca, vous savez ce que c'est ?
J'ai entendu
ce terme une fois dans Orange is the New Black. J'ai googlé, j'ai vu la définition sur Wikipédia, j'ai oublié.
Donc la Wicca, c'est une religion païenne européenne qui a été formalisée au milieu du XXe siècle par des gens comme Gerald Garner, Scott Cunningham, donc des hommes blonds avec des calvities, hein, et qui reprend des concepts druidiques, celtiques, gréco-romains, slaves, nordiques. Donc jusqu'ici, tout va bien.
Mais quel rapport avec les Noirs, Mélanie ?
Et chamaniques et afro-descendants. Eh ouais. Donc moi, en fait, j'ai envie de parler de spiritualité et j'ai envie de parler d'appropriation culturelle dans la spiritualité. Parce que je vais faire mon coming out, il faut que je vous avoue que moi aussi j'ai eu ma période dans ma jeunesse, ma période Wicca, où je lisais des livres et je faisais brûler de l'encens et des bougies. Mais quand même, j'ai très vite senti que j'étais pas vraiment attendue dans cette sphère-là, hein, on peut dire ça. Parce que, en gros, toute l'imagerie de la Wicca, c'est composée de blancs, de femmes blanches, d'hommes blancs, les dieux sont blancs, etc. Et du coup, les sorcières dans l'imaginaire sont des vieilles femmes blanches ou des jeunes femmes blanches, si tu penses à Charmed, par exemple. Et en gros, la Wicca, c'est pour les blancs. C'est une religion qui a été inventée pour les blancs et les autres ne sont que des invités. Et donc, la question que je me suis posée, c'était où sont les sorcières noires, en fait ? Et du coup, alors, mon cheminement, ça a été ça. Après, je me suis dit, des sorcières, il y en a en Afrique. Avec le temps, j'ai appris notamment que ma grand-mère, qui est ivoirienne, était ce qu'on appelle féticheuse. Elle participait à des cérémonies, elle était guérisseuse à l'aide des plantes, elle parlait avec les ancêtres, elle rentrait dans des transes et les gens venaient la voir. Mais il y a aussi des sorcières dans énormément d'autres cultures à travers le monde. Je pense à Amérindiens, les chamans, etc. Donc, moi, ce qui me touche aujourd'hui dans la spiritualité, c'est que c'est politique, on en a parlé l'autre fois, parce que en France, qui est quand même un pays très cartésien, les mouvements politiques, ils ont carrément souvent, très souvent, rejeté la spiritualité en disant « ça ne nous intéresse pas ». Mais sachant qu'aujourd'hui, on retrouve des sorcières dans les Black Blocs contre Macron. Et qu'aux États-Unis, il y a une théoricienne qui s'appelle Starhawk, qui a beaucoup en fait écrit sur ça, en fait, sur le lien entre spiritualité et politique, le mouvement écoféministe. Voilà, donc il y a un vrai lien qui existe. Et pour moi, c'est intéressant la spiritualité parce que ça recoupe le racisme et les préjugés et le sexisme et l'appropriation culturelle. En gros, dans cette spiritualité-là, tu peux revoir tout ça. Donc c'est intéressant. Le bouquin que j'ai lu qui m'a vraiment inspirée en ce moment, c'est Jambalaya de Louisa Teich, qui est un livre qui a été publié en 1984, qui raconte l'enfance et l'adolescence donc, de cette dame à la Nouvelle-Orléans, entre les botanicas, ce qu'on appelle les botanicas, c'est les boutiques où on peut acheter des bougies, de l'encens, des statuettes, tout ce qu'on veut. Et en fait, elle raconte comment les femmes dans sa famille pratiquaient cette spiritualité, mais de manière discrète, genre fallait pas en parler. Donc les charmes, les incantations, les nettoyages, les purifications. Et le livre est aussi un peu un manuel de rituels traditionnels. Donc Louisa, aujourd'hui, c'est une prêtresse de la tradition Yoruba, Lukumi. Elle est Yanifa, ce qui veut dire mère des mystères et mère de la sagesse. Donc en fait, elle a vraiment intégré la sagesse traditionnelle africaine, nigériane, dans sa pratique. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est le vaudou et le hoodoo, qui sont des traditions vraiment américaines, qui viennent des descendants d'esclaves, qui ont amené en fait leur tradition ancestrale au moment de la traite. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les esclaves sont arrivés, bien sûr, ils n'avaient plus le droit de pratiquer leur religion. Ils devaient pratiquer la religion du maître, donc le christianisme ou protestantisme. Et ils ont mélangé en fait leur figure à eux.
Comme les populations locales amérindiennes qui, elles aussi, ont été forcées, mais qui ont adapté aussi.
Tu mélanges en fait tes croyances et tes traditions avec celle de l'oppresseur, en disant oui, c'est la Vierge Marie qu'on prie pour elle, alors qu'en fait, tu pries pour tes déesses personnelles.
C'est la créolisation.
Et moi, ce que j'aime bien, c'est que en fait, la spiritualité, c'est à peu près la seule chose qui reste quand on est arraché à son pays, à sa civilisation pour être mis en esclavage, ou effectivement, quand un envahisseur vient et assassine l'entièreté de ton peuple, comme pour les natifs américains. Je voulais juste, du coup, reprendre quelques petits trucs du bouquin qui je pense, qui sont intéressants et que j'avais envie d'évoquer dans le chip. Les croyances d'Afrique de l'Ouest, Yoruba, donc notamment qui ont survécu et dont elle parle dans le bouquin, c'est les sept déesses et les dieux, et les sept dieux africains, en fait. C'est sept déesses et dieux, donc, principaux. Donc, il y a Obatala, qui est le créateur androgyne, qui est à la fois homme et femme. Il y a Yemaya, la déesse des mers, qui est connue pour sa beauté, mais aussi pour un peu son mystère. Oya, la reine du changement, donc c'est quand tu veux déménager, tu fais une prière à Oya. Oshun, qui est la Vénus locale, qui représente la beauté et la féminité, et c'est une déesse à laquelle Beyoncé a rendu hommage au Grammy Award 2017.
Okay, avec les tenues dorées un peu là.
Exactement. Ouais. Et puis on a Shango, qui est le dieu de la masculinité, et Ogun, le constructeur, l'architecte. Donc c'est vraiment intéressant parce que, pareil, on voit des parallèles avec les dieux gréco-romains, donc il y a vraiment ces choses-là qu'on retrouve, ces principes qu'on retrouve un peu. Et un autre point que je voulais évoquer aussi, c'était la démonisation de toute cette croyance.
Bien sûr.
Et ça, elle en parle beaucoup dans le bouquin, Louisa Teich. Elle explique qu'avant l'appropriation, avant les sorcières blanches qui brûlent de la sauge et qui font des pratiques chamaniques, et ben il y a la démonisation de tout ça. À travers les médias, le cinéma, la littérature, les séries, les Occidentaux, ils ont réussi à fixer une espèce de version diabolique de tout ça, de ces pratiques, comme le vaudou, le houdou ou les traditions ancestrales africaines. Ça fait peur, en fait. Quand tu regardes les films vraiment occidentaux, t'as peur.
C'est vrai que le vaudou, dans la pop culture, le vaudou haïtien, c'est...
C'est du sang, c'est des cris.
Ouais, c'est pas vu comme quelque chose de très positif. Quoi.
Ouais, c'est ça. Et même les sorcières noires, dans la pop culture, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et quand elles sont là, elles font peur. Donc The Craft...
Les méchantes dans Sabrina.
C'est exactement ce que j'allais dire. Tati Gabriel dans Sabrina.
Et puis c'est parfois aussi très caricaturé. Je pense à Rencontre avec Joe Black ou Brad Pitt.
Je n'ai pas vu celui-là.
Oh, parce que aussi bien en VO qu'en VF, le film est insultant. En VO, il parle en anglais, il parle un faux jamaïcain patois qui a été traduit par une sorte de petit nègre créolisant en français.
Merci.
Voilà. Et donc c'est toujours des trucs de mais ça va aller dans l'autre monde, mama. Enfin,
ouais. D'accord. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un mouvement de récupération sur Internet actuellement. Par exemple, je pense à The Hood Witch sur Instagram. Il y a des communautés, des coven, qui vraiment font un retour aux sources et disent « Mais en fait, non, nos traditions, elles font pas, elles sont pas ce, qui, ce que la pop culture en dit. » quoi. Donc, il y a un process vraiment de retour à la spiritualité, redécouverte des ancêtres et du politique que, qui, moi, m'intéresse énormément. Donc, je vous conseille vraiment ce bouquin dont je vous ai extrait un petit tuto parce qu'il y a aussi un aspect vraiment... charme, quoi. Elle raconte des charmes, des incantations, des trucs à faire. Donc vous êtes prêts, les
garçons ? On apprend à faire quoi ? Moi, je veux maudire mes ex.
Quoi ? Non. On va faire le masque macabre.
Ça sert à rien, alors.
Donc, c'est pour tous mes sistas et tous mes frérots qui passent par des phases de dépression, le masque macabre. Donc, en gros, les ingrédients, il te faut une assiette en papier, des crayons de couleur, une perforeuse à trous, un bout de ficelle, des allumettes, une cheminée ou du feu, un petit chaudron ou un bol en métal. Donc, première étape, tu t'assois, tu fronces les sourcils, tu bouges les muscles de ton visage parce que ça t'aidera en fait à ressentir ta douleur. Deuxième étape, tu utilises les crayons de couleur pour dessiner un visage sur l'assiette en papier qui ressemble à la manière dont tu te sens. Donc, tu inclus des symboles de tes expériences, tes habitudes négatives. Tu peux dessiner ton ex, François, si tu veux. Ensuite, tu fais des trous sur les côtés de l'assiette, tu noues la ficelle de manière à pouvoir faire un masque et tu mets le masque à l'envers sur ta tête, tu le mets derrière toi. Et à partir de là, tu cries les attributs de ta négativité, donc jalousie, pauvreté, ex.
Ça y est, j'ai déjà les mots qui me viennent.
Chômage.
C'est pas drôle, Kiffy.
Jusqu'à ce que tu sentes que toute cette colère et toute cette frustration est plus en toi. Ensuite, tu jettes le masque dans la cheminée ou tu le fais brûler dans un petit bol. Et tu regardes le masque brûlé. Et après, tu te places devant un miroir et tu inspires profondément et tu souris. Et normalement, ça ira mieux. Sachant que cette technique est utilisée par toutes les cultures dans le monde. En fait.
C'est vrai que le fait d'écrire des trucs, par exemple, de comme une catharsis un peu, et puis de brûler la feuille ensuite. Ouais. Par exemple, écrire une lettre à quelqu'un à qui t'as un rapport problématique.
Merde
ensuite, et ensuite brûler, j'ai déjà entendu parler de ça dans des trucs, d'autres cadres. Quoi.
Ouais. Voilà. Et donc, dans son bouquin, il y a plein de petits trucs comme ça. Qui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle explique d'où ça vient. Elle explique les liens qu'il y a avec la tradition et tout. Donc voilà, Jambalaya de Louisa Teich. Très, très bonne expérience. Qui donne envie d'en savoir beaucoup plus.
Hey, alors moi j'ai deux recommandations, mais je vais pas être très long. La première, c'est une série documentaire qui est sortie le mois dernier sur Arte. Ça s'appelle Décolonisation avec un S. Ça a été réalisé par Karim Misquet, Marc Ball et Pierre Singera-Velou. Ça raconte l'histoire de la décolonisation, mais cette fois-ci du point de vue des décolonisés. C'est l'occasion de découvrir les figures marquantes, mais parfois anonymes, des luttes coloniales.
Le moment était propice, parce que ce sont des choses dont on parle énormément dans la société française, mais aussi dans toutes les sociétés occidentales. Il y a le développement des post-coloniales, ce qu'on appelle les post-colonial studies, les études post-coloniales. Il y a le mouvement qu'on appelle décolonial. Donc il y a... aujourd'hui, la possibilité d'entendre des choses peut-être qui étaient plus difficiles à entendre auparavant et de les raconter d'une autre manière.
C'est l'acteur Reda Kateb qui fait la narration du docu, c'est fait avec brio. Tout est top, mais mention spéciale au troisième épisode qui m'a fait pleurer comme une madeleine. Les deux fois où je l'ai vu, ça parle de Mobutu et Lumumba. Donc si vous connaissez pas l'histoire, je vais pas vous spoiler, mais ça arrache le cœur. Et donc voilà, félicitations à eux. J'ai vraiment trouvé ça très inspirant et ça change. Enfin, j'aimerais bien voir plus de choses comme ça à la télévision. Et
voilà, c'est l'anniversaire, donc il va y avoir d'autres trucs cette année, je pense.
Oui, Africa 2020, les trucs de décolonisation, il y aura des trucs. Et puis la deuxième recommandation, c'est pas un documentaire, c'est de la fiction, c'est une série, ça s'appelle The Twilight Zone. À la base, The Twilight Zone, c'est un classique de la télévision américaine des années 50-60.
Ah, série de SF, là.
Qu'on connaît sous le nom de la quatrième dimension. C'est une série d'anthologie, donc chaque épisode est indépendant, c'est CBS qui le fait. Et pourquoi j'en parle dans le chip ? Parce que c'est Jordan Peele de Get Out, de Key & Peele, qui est le producteur de la série.
Life sometimes goes like you don't expect it to.
Ah, ce bruit !
Ouais,
oui,
ouais,
oui,
ouais,
d'accord.
Bien
sûr. What did you do to me ? Turn it off.
This is real.
Voilà.
Donc, j'ai pas encore fini la saison. C'est un peu inégal, mais il y a vraiment des trucs très très forts. Et encore une fois, le troisième épisode m'a aussi marqué. Il s'appelle Replay et forcément, il y a beaucoup de diversité dans le casting. Mais celui-ci, c'est la question des violences policières, de la fatalité, de l'amour maternel. C'est une histoire de vieux caméscope qui peut rembobiner le temps. Et en même temps, c'est la question des jeunes noirs, hommes noirs qui se font harceler par la police. Donc c'est assez émouvant aussi. C'est très cool et allez voir ça et c'est pas méga prise de tête et c'est chouette et on sent bien la patte de Jordan Peele. Voilà.
Alors pareil, ma recommandation à moi, je vais aller très vite, c'est un livre qui s'appelle Prochain arrêt, Le Bronx et autres pièces de Sonia Sanchez. C'est une personne dont on a entendu parler récemment parce qu'elle est venue à Paris fin 2019 pour présenter la première traduction de son travail et qu'elle a donné plusieurs interviews et conférences. Donc c'est une poétesse, dramaturge africaine-américaine, activiste, née en 1934 en Alabama, ça devait pas être facile. Elle était contemporaine de Rosa Parks, elle a été beaucoup impliquée dans le mouvement des droits civiques et elle a été impliquée avec les Black Panthers, quoi. Donc respect. Elle a écrit une première pièce en 1968 dans la mouvance de ce qu'on appelle le drame révolutionnaire noir. Et donc elle a tout de suite acquis une certaine notoriété au sein du Black Arts Movement. Elle parle des femmes, elle a un discours très militant à une époque où le mouvement noir est très dominé par les hommes. Donc elle est féministe et libératrice pour les Noirs américains, donc les deux. C'est une œuvre qui est inédite en France, son bouquin. Donc ce livre-là se compose de 7 pièces de théâtre, 3 essais composés des années 60 à aujourd'hui. Les thématiques, on revient à ce que tu disais, Kevy, la répression policière, les milieux militants, la place des femmes dans la société. Il y a une vraie attention qui est portée à la musique, l'histoire de la musique et ce que la musique noire représente pour la culture américaine. Donc c'est vraiment très très beau à lire. Très intéressant. Prochain arrêt, Le Bronx et autres pièces aux éditions L'Arche.
Alors moi aussi je vais aller très vite pour ma recommandation. Je vous recommande un documentaire qui s'appelle L'argot sous un garrot. C'est un documentaire de Laura Millienne et Olivier Pilot. Alors Olivier Pilot, il m'avait contacté déjà. En fait c'est un documentaire sur Booba, déjà pour commencer. Hein. Non j'ai pas l'obsession Mélanie, mais on regarde pas comme ça. Qui en fait explique le génie linguistique de Booba. Voilà, Olivier Pilot, c'est quelqu'un qui m'avait contacté déjà il y a quelques années de cela. Donc ça fait un petit moment qu'il travaille sur le projet. Puisqu'à une époque quand j'étais à Combini, j'avais interviewé un jeune étudiant en philosophie qui s'appelle Alexandre Chira et qui avait écrit un bouquin déjà à ce moment-là sur la philosophie dans les textes de Booba. Donc voilà, le docu est enfin sorti sur YouTube. Je vais pas vous mentir, le documentaire a des défauts majeurs selon moi. Déjà, il aurait pu être mieux filmé, on va dire, au niveau du cadrage, de la prise de son, de l'éclairage. Il y a parfois un petit... Ça fleure un peu des fois l'amateurisme, je dois dire. Et le deuxième truc plus gênant, selon moi, c'est quelque chose de très politique, c'est que je n'aime pas les documentaires qui prennent le parti de demander de la validation du rap à des sorbonnards, en fait. Et là, c'est ça. Ce sont des personnes qui vont t'expliquer, avec des mots très bien choisis, que voilà... ça, tu vois, c'est une métaphore. Métaphore, c'est intelligent. Voilà, pour moi, le rap, c'est une forme d'art qui se suffit à elle-même. On n'a pas besoin d'adosser le rap à la poésie du Moyen-Âge. On n'a pas besoin de dire que Booba est le nouveau Rabelais ou le nouveau François Villon. On n'a pas besoin non plus de dire que Booba est le nouveau Georges Brassens ou Jacques Brel pour justifier le rap comme forme d'art légitime. C'est ce que fait ce docu tout au long et ça me gêne. Ensuite, ceci dit, j'aime quand même intellectuellement le fait de pouvoir relier une culture pop avec une culture académique, c'est ce qu'on fait à longueur de temps dans le chip, donc je peux pas, c'est ce que j'ai fait même dans cet épisode, donc je peux pas blâmer Olivier Pilot et Laura Millienne. Et donc voilà, si ça vous intéresse de savoir un peu pourquoi Booba a une telle longévité, un tel talent, et pourquoi c'est un rappeur aussi étudié, et pourquoi il fascine même les intellectuels et même des gens qui n'ont pas forcément grand chose à voir avec la culture rap, si vous êtes un ou une vraie ratpi, bah je vous conseille quand même ce documentaire qui est disponible gratuitement sur YouTube et qui s'appelle, je le rappelle, L'argot sous un garrot. Voilà.
C'était le chip. On revient dans 15 jours. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram sur @lechippodcast. Ça n'a pas changé.
Vous pouvez aussi nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes vos applis de podcast habituelles. Laissez-nous une review sur Apple Podcasts, mettez-nous 5 étoiles pour nous faire remonter dans le classement. Le jeu de société, le chip, le jeu que vous nous avez aidé à financer lors de notre campagne Ulule l'année dernière est en cours de fabrication. On vous tient au jus de l'avancée, on n'oublie pas, ne vous inquiétez pas.
Peut-être pas en février.
On vous tient au courant. L'émission, donc cette émission, a été réalisée par Quentin Bresson et coproduite par Binge Audio. Et on vous dit à bientôt.
Des bisous.
Bisous.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.